Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou. Et maintenant, le vampire va pouvoir sortir les dents.
La France qui se lève tôt mange aux Fouquettes. C'est pas mal.
75% des plus de 65 ans ont voté Sarkozy. Eh bien, je dis vive la canicule. Élection piège à vieux con. Bruno de Brest.
Bonjour, Yannick Rioux de Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville qui est peut-être en Belgique. J'appelle pour dire que je suis très heureux que Madame Royal ait gagné. Elle va pouvoir maintenant mettre en application une vraie politique humaniste, une vraie alternative au capitalisme. Si elle n'en a pas parlé pendant la campagne, c'était pour avoir une vraie chance d'y arriver. Elle nous a un peu édulcoré sa politique de gauche. Mais on imagine que M. Sarkozy a fait pareil. On n'imagine pas ce qu'il aurait pu faire s'il avait été élu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
Salut Daniel, j'imagine que ton répondeur doit être plein de messages de gens effondrés. Ben moi, je voudrais vous faire partager la manière dont j'ai passé la barre fatidique de 20h hier soir. J'étais à Djerba, dans un aéroport de Djerba, je m'apprêtais à monter dans l'avion et à côté de nous, on était dans la queue pour remonter. Il y avait un groupe de retraités qui était écoutés sur leur téléphone portable, compte à rebours. Nous, on était depuis une heure effondrés parce que, en fait, on était un groupe de journalistes de France 2 avec notre caméra, on était venus faire un reportage là-bas. Et on avait le résultat depuis un petit moment. Et donc, ces gens ont exulté de joie, ont hurlé de joie, oui, victoire, quand ils ont entendu le nom de Sarkozy. Puis d'un seul coup, ils ont vu notre caméra avec un petit autocollant France 2, et là, c'est une pluie d'insultes qu'on s'est prise, quoi. C'est-à-dire, fonctionnaires, on a dit, ouais, vous avez bossé, on va vous faire virer, comme ça, on arrêtera de payer pour vous, bande de fonctionnaires, bande de feignants. Ben bref, on s'est pris un flot de haine, ils criaient « ouais, on sera plus riches ». Bref, que de la haine, quoi. Que de la haine pendant 5 minutes avant qu'il y ait des Tunisiens qui nous viennent un peu en aide. Donc voilà comment je suis rentré dans la présidence Sarkozy sous les insultes et avec des gens devant moi qui avaient 65 ans, qui étaient en vacances et qui vomissaient leur haine. Donc on a simplement répondu qu'on était content de voir l'électorat de Monsieur Sarkozy devant nous. Voilà, c'est vraiment un gâchis énorme et que on va en baver, quoi.
Oui, bonjour Monsieur Mermet. Je suis très ravi de parler à quelqu'un pour qui je paye une redevance, qui fait de la propagande depuis des années et des années, et qui ce soir l'a bien dans le cul, bien profond, et ce soir vous pouvez aller vous faire foutre bien profondément, et je sais que vous ne passerez pas ce message, mais je suis très content de le laisser quand même. Bonne soirée, et surtout, j'espère que vous allez aller sur d'autres radios, et pas sur une radio publique pour laquelle on paye une redevance et sur laquelle vous ne devriez pas être. Bye bye.
Ah, ces messieurs se déploient avec leur bouclier en plexiglas. Mais pendant que les sarkozistes mangeaient des petits fours et boivent du champagne, en ce moment, il y a une compagnie de CRS qui est en bas de chez moi. Mais ça a commencé pas par les voitures qui brûlent, mais par les hélicoptères qui nous survolent. Il faut voir où est la cause, où est l'effet. Hein, faut pas confondre. Voilà. L'hélicoptère continue à passer au-dessus. Oh, un petit coup de phare sur mon appart. Super. Voilà. Alors, les bonnes odeurs du caoutchouc brûlé et des gaz lacrymogènes.
Bonjour, ici c'est Pascal de Caen, dans le Calvados. Alors, il y a souvent une plaisanterie dans cette belle ville où on dit que c'est le couvre-feu après 19h. Ben là, on aura peut-être vraiment le couvre-feu, parce que moi, depuis 12 ans, c'est la première fois que je vois des CRS, comme à Paris, des vrais, avec des boucliers, des flashballs, des casques et tout, des fourgons de flics partout, un incendie de la permanence UMP qui est tout à côté, et puis une nouveauté, ça c'est aussi la première fois que je vois ça à Caen, un appel à témoins de la part de la police judiciaire que les riverains, donc, dont je suis, trouvent dans leur boîte aux lettres. Un Sarko démarre très fort suite à des dégradations par incendie qui ont été commises dans la nuit du 6 au 7 vers 4 heures du matin à la permanence UMP de Nicolas Sarkozy. Bien vouloir contacter l'antenne de police judiciaire au 02 31 15 63 00 pour tout renseignement ou témoignage. Et la police et Sarkozy ne disent même pas merci. C'est-il pas beau, ça? Allez, au revoir, courage.
Je suis à la place des terreaux, je suis en train de voir quelque chose d'horrible. Des jeunes qui viennent de se faire tabasser, simplement parce qu'ils demandaient des bisous au CRS. Et c'est inadmissible, ils se sont fait gasser et cogner, c'est impressionnant. Il y a encore une quantité de CRS à la place de la mairie de la ville de Lyon qui essaie de se demander où est-ce qu'on est. Salut, c'est Robert Sauvelier.
Oh, bah alors, où qu'il est passé, Sarko? Où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est? Mais où qu'il est, Sarko? Où qu'il est, où qu'il est? Dans ton cul!
Voilà, on sent que certains auditeurs sont en pleine forme. Les déçus d'hier commencent visiblement à remonter un peu sur leur cheval. Et puis voilà, enfin, il y a quand même encore un effet de choc. Pour beaucoup, c'est dur. Enfin, il y a de tout, comme d'habitude, dans le répondeur de la basse. J'y suis aujourd'hui. Deuxième volet de l'entretien avec l'équipe du Monde Diplomatique. Hier, on a beaucoup parlé, évidemment, c'était normal, de l'élection de dimanche. Là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le vaste monde. On va aller avec Maurice Lemoine dans l'Amérique latine. On va aller avec Dominique Vidal sur un sujet tout à fait passionnant qui est la discrimination positive. Qu'est-ce qu'on en pense? Comment ça marche dans les pays où on a tenté d'appliquer un système pour réduire les inégalités aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud et chez nous en France? Est-ce que c'est un mécanisme si simple que ça? Quels sont les effets pervers, etc.? C'est un dossier du Monde Diplomatique de ce mois-ci que je vous recommande. Et puis, on va retrouver François Ruffin. Mais un autre François Ruffin, il y a celui de la Basse et j'essuie, et puis il y a celui qui écrit aussi de temps à autre dans le Monde Diplomatique et qui, là, donne un dossier très, très complet sur l'affaire EADS et Airbus. Vous savez que des licenciements sont en cours, 10 000 à travers l'Europe. C'est pas une mince affaire. Et ben voilà, c'est nouveau pouvoir en France aura à régler cette question-là aussi. Donc voilà quelques-uns des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Mais auparavant, encore quelques messages, enfin encore pas mal de messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse suisse, qui débordent littéralement.
Salut Mermet, c'est Martine de Reims, j'ai 53 ans et je suis fidèle de France Inter depuis toujours. Surtout au répondeur, un vrai bijou d'expression, mais c'est la première fois que je l'appelle. Car hier, pour la première fois aussi, à 18h, je suis allée au dépouillement de mon bureau de vote. 837 votants sur 1000 inscrits environ. On m'a embauché au pied levé pour compter les bulletins. Le premier était pour Sarko, le dernier aussi, prémonition du résultat de 20h. En fait, je recomptais les bulletins par pile de 10 en mouillant mon index. Donc j'ai léché Sarkozy 477 fois. Jamais je n'aurais cru devoir faire ça un jour. Ça fait drôle, je t'assure. Et j'ai mal dormi. Mais ne faisons pas la fine bouche. Il y en a marre de ces gauchistes qu'ils diabolisent. Voilà un nouveau messie nous arrive, tellement plein d'amour. Il en jouissait tout seul dans son discours. Allez, accroche-toi. Les temps risquent d'être durs pour toi. Et pour nous aussi par conséquent. Bye.
Samedi 5 mai, j'ai fêté mes 20 ans et le lendemain, on m'a offert le plus beau, le plus émouvant des cadeaux qui soit, la Marseillaise de Mireille Mathieu. C'était formidable. Formidable. Qu'est-ce qu'on rigole dans la France d'après. C'était formidable. Bon, allez, la prochaine fois, je vous parlerai d'Enrico Macias et aussi de Gilbert Montagnier pour le plaisir. Allez, bon courage, bonne nuit.
Mort de rire, Sarko est dehors. Ah là là, il y en a qui doivent suer dans leur boubou, là. Allez, Sarko, maintenant, vas-y. Le Karcher, évite. Fous-moi toute cette vermine dehors, le peuple est derrière toi. Allez, ciao, Daniel.
oui, bonjour, je suis africaine. Je voudrais vous dire que les Français, en élisant hier Nicolas Sarkozy par 53% de voix, des suffrages, ont tout simplement révélé leur vraie image, leur vrai visage, des gens à 53% racistes, repliés sur eux-mêmes, dans la mesure où la campagne de Nicolas Sarkozy était essentiellement axée sur les thèmes du Front National, comme le ministère de l'immigration et de l'identité française, et le ministère de l'immigration et de l'identité, redonner aux Français la fierté d'être Français, en finir avec la repentance. Je me demande ce que ça signifie dans la mesure où la France a toujours vécu avec l'oubli de son histoire coloniale et esclavagiste. Et je me demande ce qu'il a l'intention de faire, s'il a l'intention de bâillonner les historiens ou les associations qui s'occupent de faire un devoir de mémoire. Quant à moi, je vais retourner dans mon pays et je souhaite bonne chance aux 47% de Français restants qui n'ont pas voté pour Nicolas Sarkozy et qui devront supporter son mandat. Je vous remercie. Au revoir.
Bon, maintenant que Sarko et ses affidés ont tenu ce qu'ils voulaient, on peut reprogrammer l'émission à 17h, non?
Oui, bonjour à tous. J'ai une recommandation pour le ministère de l'Éducation à propos des sujets pour le bac de philo. J'ai deux sujets à vous proposer. Donc, alors, le premier, c'est la majorité a-t-elle toujours raison? Et le deuxième, c'est l'histoire en tant que sujet académique a-t-elle encore sa place dans la mémoire collective? Vous avez 5 ans. Merci. Au revoir.
Oui, Mermet. D'après un sondage de la Soufifre, il y aurait 53% des Français qui seraient cocus à 100%. Étonnant, non?
Alors, beaucoup, vous l'entendez, de mauvais perdants revanchards, hein, parmi les messages laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis. Alors, par exemple, ceux qui estiment que aller au Phuket, c'est aller dans un restaurant riche et dans un haut lieu du tout Paris friqué. Écoutez, on s'est renseigné. C'est pas si formidable que ça. Hein, l'asperge blanche pochée, pointe de physalis, mousse de pamplemousse relevée, maniguette, c'est 26 euros. Le marbré de foie gras de canard, Jean-Loup Dabadi, c'est son plat favori. Marbré de foie gras de canard, marmelade de kumquat, 39 euros. Bon. Le Merlan Colbert, comme l'aime Robert Hossein, pomme au four et la persillade sauce tartare, 29 euros. La nage de Saint-Jacques aux fruits de la passion, pâte soba, artichaut, poivre de chou, romanesco, sucrine rôtie, 44 euros. Quant aux viandes, vous avez le tartare de bœuf Benabar préparé à votre convenance à 28 euros. La côte de bœuf Riviera, légumes du marché en cocotte, 86 euros, c'est pour deux personnes. Bon, et puis alors, si vous voulez vous maintenir en forme, vous avez, alors, ça c'est le menu forme, hein, asperges cuites au bouillon, vinaigrette fruitée au fromage blanc, 75 calories, 24 euros. Bon, salade de sucrine printanière, vinaigrette aux agrumes, 192 calories, 22 euros. Vous pouvez aussi avoir la petite queue de lotte en blanquette de noix de coco et tamarin. 350 calories quand même, 39 euros. Et puis le grenadin de veau au tofu, ananas frais, courgette, garam masala, au lait de soja, 340 calories, 44 euros. Enfin voilà, c'est pas... On a beaucoup exagéré. Vous êtes une bande de mauvais perdants, revanchards. Et en voici la preuve.
Bonjour Daniel. Avis à ceux qui, dans le département du Tarn, ne considèrent pas que les carottes sont cuites, mais que le combat continue. Nous organisons 2 soirées cinéma à débat autour du film de Christian Rouault, LIP, L'imagination au pouvoir, en présence de Charles Piaget, qui fut l'un des leaders de cette grève, plus que jamais instructive. Cela aura lieu d'abord à Albi, à l'Atanor, le vendredi 11 mai, à partir de 20h30. Puis, le lendemain, à Gaillac, le samedi 12 mai, à partir de 20h. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Christelle du Loiret. Je voudrais juste appeler pour rappeler une phrase de Thomas Jefferson. Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites et tu n'auras ni l'une ni l'autre. Voilà, bon courage à tous, au revoir.
Oui, bonjour Daniel et
Moi, je veux dire combien je suis remonté sur cette gauche caviar qui a laissé tomber complètement Ségolène depuis le début, qui ont jamais voulu tout ça parce qu'ils auraient aimé être à sa place, les Fabius, les Strauss-Kahn, et là ils arrivent, ils parlent, ils veulent nous faire croire quoi. Alors moi je tiens à dire que moi et les nouveaux militants, il faut qu'on lutte pour que Ségolène reste en place parce que elle a fait des choses extraordinaires comme des débats qui participatifs, elle a fait des tas de choses, et même si elle s'est ouverte au centre, il va falloir bien qu'un jour on s'ouvre. Et que l'extrême gauche tout entière, moi qui ai toujours voté au premier tour extrême gauche et LCR, on se rassemble et qu'on trouve des accords ensemble, des choses pour respecter plus le peuple, la majorité qu'on soit, et que surtout, on reste soudés et qu'il n'y a rien de perdu. Toute une vie, de toute façon, on gagnera jamais tout ce qu'on souhaiterait pour l'être humain, des choses qu'on rêve les plus belles, mais tous les jours il faut se battre, tous les jours, restez soudés, et tous les jeunes là, ne vous foutez pas sur la gueule dans les rues, ne croyez pas que la violence va lui faire rire à l'autre connard de Sarkozy, surtout pas, non, toute la violence et toute la force que vous avez, amenez-les, allez prendre des cartes à la LCR, au Parti Communiste, au Parti Socialiste, tous, mettons-nous ensemble, tous, il faut qu'on soit ensemble. Et on va y arriver, on va se défendre. À chaque manifestation pour défendre un droit social, il faudra qu'on soit ensemble. Tous.
Oui, bonjour. Je suis un des 53% de Français qui a voté avec joie et conviction pour Nicolas Sarkozy hier. Et donc, je voulais dire que, en vous écoutant, on pourrait penser que ce vote est une imposture. Pourtant, je vous dis bien, 53% des Français ont voté pour Sarkozy hier. Le monde n'est pas fait que des patrons du CAC 40 et du petit monde des journalistes pseudo-intello dont vous faites partie. Sachez qu'il y a aussi d'autres personnes et que le respect, la liberté, la démocratie, c'est de reconnaître à ces gens le droit de s'exprimer, d'avoir des idées qui sont différentes des vôtres. Voilà. Je suis pas un télo. Je suis juste scientifique, moi. Et j'ai voté Sarkozy. Voilà. Je pense qu'on est plusieurs. Au revoir.
Merci pour votre émission. Alors que je touchais le fond, suite au sarcome qui sévit chez une partie des Français, ceux qui n'ont pas compris qu'ils ont marqué un but contre leur camp, votre émission, qui explose de vitalité, m'a permis de donner un coup de talon et de remonter à la surface. Bien que seule chez moi et un peu vieille, 68 ans, je ne dois pas oublier que nous sommes tout de même 47% sur la même longueur d'onde. Surtout, continuez. Je vote pour vous. Vous faites œuvre de santé publique.
Moi, je fais partie de la France en bas. L'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, pour moi, est une catastrophe pour moi. Moi, Nicolas Sarkozy ne représente que les riches. Au Phuket, il n'y avait que les très grands patrons là, qui étaient là. Et les chanteurs qui vont se réfugier en Suisse pour pas payer d'impôts. Et ça, moi, je vis en France et j'ai pas beaucoup de moyens, je paye des impôts. Alors moi, quand j'entends Johnny Hallyday et ce pauvre crétin parler de... je suis écœuré. Parce que nous, on va... C'est les plus pauvres. Moi, j'habite une cité HM. J'habite dans un truc crasseux. Et c'est nous qui vont payer. C'est nous qui allons payer.
Pour rassurer les personnes et amis que je connais à l'étranger, et plus particulièrement au Portugal, et qui me connaissent comme Français, résidant donc dans un pays qui s'appelle la France. Alors je tenais à leur dire que la France où j'habite n'a strictement rien à voir avec celle dont l'actualité se fait abondamment l'écho en ce moment, au sujet d'élections présidentielles qui viennent de s'y tenir, si j'ai bien compris, et qui ont vu la victoire d'un certain Nicolas Sarkozy. Rassurez-vous, ce n'est pas la même France. Il s'agit d'une simple mais fâcheuse homonymie. C'est vrai que c'est con ça de donner le même nom à deux pays distincts. Ça entraîne des confusions. Faut que j'écrive, je sais pas moi, au Conseil constitutionnel de mon pays peut-être. pour leur soumettre ce problème. Faut faire quelque chose, merde. On peut pas rester dans cette situation. Oh non, c'est... Merci.
Dites, c'est bien gentil ça, mais je suis militant PS, je vous ai pas tellement vu sur les marchés pour expliquer aux gens ce qu'il en était et militer un petit peu. Moi quand j'entends l'un d'eux dire que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la gauche, c'est du vide, voire du vide sidéral, je trouve ça un peu violent. Qu'on analyse les discours, qu'on dise ce qu'il en est, je veux bien, mais d'asséner comme ça quelque chose d'aussi brutal, je trouve ça un petit peu dur, quoi, pour des gens qui se sont bougés, hein, qui se sont aussi mobilisés quand même pour ce discours si vide, quoi, alors que de l'autre côté, l'analyse était quand même profonde. Donc est-ce qu'on pourrait pas dire que ce qui se passe du côté de la gauche pour l'instant c'est complexe, ça cherche encore à se trouver une véritable unité, mais pour avoir une unité encore faut-il avoir des gens de gauche qui nous soutiennent et qui nous aident. Donc si vous voulez venir militer avec moi, je suis au Parti Socialiste d'Arles, donc pour législative, vous serez la bienvenue, messieurs Vidal et Serge Halimi, que j'apprécie aussi grandement. Mais j'aimerais bien que les discussions soient un peu plus pragmatiques. Voilà, merci beaucoup. Et puis, salut à tout le monde de là-bas si j'y suis.
8 mai à 3h27.
Bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis. Voilà, ça fait plusieurs années que j'écoute votre émission. Et puis, j'ai décidé d'appeler un peu pour raconter une petite vie de cheminot. Donc là, je me lève pas tôt. Mais je vais me coucher tard puisque j'ai travaillé et on risque de nous attaquer un peu, je pense, avec ce nouveau président. On va raconter notre vie, puisqu'on est des privilégiés, on va raconter notre privilège de se coucher tard, de se lever tôt. C'est ça le 3-8. Et un petit coucou à tous les gens qui travaillent en 3-8, surtout dans les usines. À la prochaine, je vous tiendrai au courant de ma petite vie de cheminot. Ciao.
Nicolas dort sur son yacht près du peuple. En tout cas, le petit Nicolas nous a déjà annoncé deux belles mesures, c'est-à-dire un nouveau traité qui va passer par l'Assemblée nationale. Bien joué. Les gens qui ont voté pour le non apprécieront, surtout ceux dans son camp. Et puis le traité de Kyoto que va signer Monsieur Bush avec l'appui de Monsieur Sarkozy qui va le convaincre. Mais il y a longtemps, ça fait 6 mois qu'on sait que Monsieur Bush envisage de signer le traité de Kyoto histoire de sortir un peu les Américains du bourbier irakien. Tout ça, ce sont des choses éculées qu'on sent déjà. Mais Nicolas dort, bercé par le bruit des vagues, sur son yacht, près du peuple, le bon peuple français, bête et méchant, qui a voté pour lui, et qui dans sa tête en est resté encore à l'image du patron du 19e siècle, emmuré derrière les murs de son grand château. Prolo, allez bosser, le patron dort, mais il pense à vous. Ciao.
C'est là-bas si j'y suis, c'est le deuxième volet de l'émission mensuelle avec le monde diplomatique, avec François Ruffin, Dominique Vidal, Maurice Lemoine et Serge Halimi. Flight number 2, arriving from New York. On continue avec le numéro du mois de mai du monde diplomatique et on va parler de EADS et Airbus avec François Ruffin. C'est un autre François Ruffin. On en a un qui, de temps en temps, s'exprime dans la basse. J'y suis, nous fait quelques reportages et il est aussi collaborateur du Monde Diplomatique dans ce numéro du mois de mai. Est-ce que Monsieur Ruffin peut être pédagogique et nous expliquer les choses clairement?
Il y a une interprétation qui s'est répandue durant la campagne électorale de ce qui se passait autour de Airbus, EADS et le Power 8. Cette interprétation, c'était de dire qu'il y avait des méchants États, des vilains nationalismes, et que c'était en gros les différends entre la France et l'Allemagne, le nez des ministres à l'intérieur de EADS qui avait contribué à ruiner Airbus. Et donc ça c'était le discours dominant lancé par les dirigeants de ADS, repris par différents ministres, ensuite relancé à travers différents médias. Or, il me semble que là-dedans, il y a un mot, simplement un nom, qui n'a pas été prononcé quasiment à travers toute cette affaire, c'est simplement le nom de Lagardère. C'est-à-dire que autant on mettait en cause les actionnaires publics, autant les actionnaires privés étaient, eux, complètement oubliés. Or, il y a une responsabilité de ces actionnaires privés, notamment de Lagardère, de Jean-Luc Lagardère, puis d'Arnaud Lagardère, qui est absolument considérable dans cette affaire. Il faut se souvenir qu'en 99, quand est privatisé Aérospatial, quand le gouvernement Lionel Jospin confie la direction d'Aérospatial au privé, et en l'occurrence au groupe Lagardère, à Matra, eh bien, à ce moment-là, Airbus est en plein essor, fonctionne très bien, a conquis 35% des parts de marché, est considéré comme une mine d'or. Bref, il n'y a aucun problème à Airbus. L'année d'après, il y a une fusion qui est faite entre Airbus, dirigé toujours par Lagardère, et Daimler Chrysler en Allemagne. Cette fois, c'est à nouveau Lagardère qui va représenter les actionnaires français. On lui confie les pleins pouvoirs. Il y a une interdiction de gestion. L'État français n'a pas le droit de gérer. Donc voilà, on donne les pleins pouvoirs, on confie les pleins pouvoirs au privé. Et 7 ans plus tard, on assiste à une débâcle. Et là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'alors qu'on a confié les pleins pouvoirs au privé, on vient dire 7 ans plus tard que c'est de la faute de l'État, que c'est de la faute des nationalismes français et allemands si Airbus se serait cassé la figure. Or, si on regarde, si on accepte de regarder vraiment ce qui s'est passé, il y a une mise en cause du privé qui doit être faite de manière assez radicale. Sur 2 points. D'abord, ce qui a été la gestion du privé, et ensuite sur la financiarisation de Airbus. Le premier point sur ce qui a été la gestion du privé, c'est que dès l'arrivée de Lagardère au pouvoir du groupe ADS, dès en plus le décès de Jean-Luc Lagardère, il va y avoir une guerre qui va se livrer. Mais cette guerre, elle va pas se livrer entre les acteurs publics et les acteurs privés, elle va pas se livrer entre l'Allemagne et la France, elle va se livrer entre ce qu'on appelle les Lagardère Boys, c'est-à-dire les hommes de Lagardère. Ce sont notamment Philippe Camus et Noël Forjard qui vont se déchirer l'un l'autre. Noël Forjard faisant la tournée de différents cabinets ministériels et ainsi de suite pour essayer d'arracher la direction de ADS à Philippe Camus. Et là, il y a quelque chose qui se produit, c'est qu'on délaisse complètement à ce moment-là le projet industriel simplement au profit d'une guerre des chefs. Mais le projet industriel est délaissé à un tel point que quand il va y avoir une revente des actions, Noël Forjard revend ses stock options, Lagardère revend la moitié de ses actions dans ADS au moment où les actions sont au point fort, et que réplique à ce moment-là Arnaud Lagardère? Arnaud Lagardère répond: j'ai le choix de passer pour quelqu'un de malhonnête ou d'incompétent qui ne sait pas ce qui se passe dans ses usines, j'assume cette deuxième version. C'est-à-dire que Arnaud Lagardère, là, à qui on a confié le fleuron de l'industrie aéronautique française, vient avouer en public son incompétence. Et il vient dire: moi, je ne regarde pas ce qui se passe dans mes usines. C'est-à-dire que là, le projet industriel a été complètement abandonné. Et il est abandonné au profit d'une guerre des chefs, au profit aussi, et ça c'est le deuxième point, au profit du profit. C'est-à-dire que dès le lancement de ADS, même avant, dès la privatisation d'Aérospatiale, quelle va être la première réflexion faite par le dirigeant de l'époque, qui est Philippe Camus? Il déclare dans Le Monde que son objectif n'est pas de construire des nouveaux avions. Son objectif n'est pas de construire des avions moins pollueurs, par exemple. Son objectif, ça va être de faire passer la marge d'exploitation de 4% à 8% en 5 ans. Au changement de statut correspond une réorientation des priorités. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de dégager de la rentabilité pour les actionnaires. Il faut lire, moi je me suis amusé à lire les différents rapports internes fournis par Lagardère, qui se trouvent simplement sur le site de ADS. Quand on va les lire, on voit très bien quelle est l'orientation à ce moment-là, la financiarisation de ADS. Dans le rapport annuel, par exemple, de 2005. Alors, 2005, c'est une année où tout va vraiment merveilleusement bien pour Airbus. On se souvient du décollage juste avant le référendum européen, puisque c'était le symbole de cette Europe qui décollait, le symbole du oui. Et là, on vient nous dire en cette année 2005 que la rentabilité de ADS a atteint de nouveaux sommets. Pour une troisième année consécutive, une augmentation de dividendes est proposée, une année record en termes de livraison, de commandes et de rentabilité. Donc c'est vraiment une excellente année. Or, en cette même année, quelle est la stratégie prévue par les dirigeants de ADS? C'est ce qu'ils appellent l'internationalisation. Ils disent, voilà, notre problème, c'est que nous, on a 75% de nos sous-traitants qui sont en Europe, on a 95% de nos salariés qui sont en Europe, ça peut plus continuer. Donc, il faut qu'on délocalise. Il faut qu'on délocalise en Inde, en Chine, en Russie. Et ils ouvrent des bureaux dans ces pays-là, dans ces pays à bas coût de main-d'œuvre, pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre, des sous-traitants qui sont à payer moins cher. Et là, ce qu'on voit se développer avec, en fin de compte avec PowerWit, alors certes, il y a eu des problèmes de câblage, mais faut pas exagérer les problèmes autour de EADS Airbus. On les exagère volontiers parce que ça permet à Louis Gallois d'avoir un prétexte de venir dire regardez la catastrophe industrielle qui se profile, alors que grosso modo il y a un carnet de commandes qui est rempli pour 5 ans, il n'y a pas de déficits qui sont absolument colossaux. Cette année, EADS a même encore enregistré un bénéfice. Il y a des dividendes, on le sait, qui continuent d'être versés tranquillement aux actionnaires. Mais pendant ce temps-là, on vient dire, voilà, il y a une catastrophe. Comme ça, ça permet de justifier des licenciements en Europe pour qu'on vienne produire 10 000 licenciements en Europe. Ouais, 10 000 licenciements en Europe. Donc, c'est-à-dire, faut se souvenir qu'au départ, ce qu'était EADS, enfin ce qu'était Airbus en tout cas, c'était un projet industriel, c'était le phare de la construction européenne et c'était quelque chose où pendant 25 ans, il n'y a pas eu de profit chez Airbus. On n'a pas entendu le mot de profit pendant 25 ans et ça n'a dérangé personne. Là, simplement parce que le bénéfice est moins important que prévu, on procède à un plan de licenciement massif qui en fait est prévu depuis longtemps, mais on utilise les problèmes autour de la 380 comme un prétexte pour licencier des personnes ici et les faire embaucher ailleurs. Alors ça doit déboucher sur une réflexion, à mon avis, autour de ce qui est, quel est le projet industriel qu'on a. Le projet industriel, faut savoir que politique industrielle, on le lit sur le site du ministère de l'Industrie français, le terme politique industrielle est un terme qui était banni du débat communautaire européen. Voilà. On n'avait pas le droit de prononcer ce mot-là au niveau européen. C'est quand même assez extraordinaire de dire que Airbus est né de cette volonté industrielle, notamment entre la France et l'Allemagne, avec deux industries publiques, MBB en Allemagne, Aérospatiale en France, qui ont mené le projet Airbus pendant des années. Et aujourd'hui, on assiste là vraiment avec Airbus, c'est la traduction de l'absence de politique industrielle. C'est-à-dire que tant qu'on délocalise dans la chaussure, tant qu'on délocalise dans le textile, dans la métallurgie, dans l'automobile, on s'est plus ou moins habitué à cette délocalisation-là. On s'est résigné. Mais à chaque fois, ce qui nous était rappelé, ce qu'on nous répliquait, c'est « Mais regardez, nous, on a Airbus, nous, on a l'aéronautique. » Or, aujourd'hui, on doit franchir un nouveau seuil d'acceptation et on doit accepter aujourd'hui que même dans l'industrie de pointe, même dans une industrie de souveraineté, eh bien, on délocalise, non pas pour sauver cette industrie, mais pour sauver, là encore on pourrait reprendre les termes du directeur financier de EADS, donc Hans-Peter Ring, qui déclare « Il faut tout faire pour que la rentabilité ne risque pas d'être en décalage sensible par rapport aux standards de l'industrie et aux attentes légitimes des actionnaires ». Donc là, on voit bien quel est le projet mené autour de EADS. Le dernier point qu'il faudrait soulever, c'est quand même que jeté beaucoup de pierres à Noël Forgeard. Il a été vraiment lapidé, cet homme-là. Il s'en est pris plein la gamelle.
Il y a François Ruffin qui défend.
Plein les poches aussi, quand même. Hein.
Oui, mais il
c'est
a.
Bien, c'est bien. Faut aussi soutenir les riches de temps en temps. C'est bien.
Il faut être aux côtés
des opprimés. Faut être aux côtés des opprimés, et donc je serai aux côtés de Noël Forgeard. Pourquoi? Noël Forgeard a certes bénéficié de 8,5 millions d'un parachute. C'est pas grand chose. 8,5 millions. Il a aussi revendu ses stock options au bon moment, hein, juste avant que les actions EADS ne plongent. Bon, il en a acheté pour ses enfants. Mais peut-être tout ça parce qu'il faut bien se préparer une petite retraite, il a expliqué. Ouais. Et c'est important de se préparer à la retraite.
Oui. Surtout s'il n'y a plus de droit de succession, c'est formidable.
Voilà. Et donc, bon, et on a vu tous les médias venir dénoncer l'argent fou, ces parachutes en or, c'est absolument infect. Or, derrière Noël Forgeard,
il y avait pire.
Mais c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Et la forêt, c'est quoi? Ben, la forêt, c'était le groupe Lagardère. Lagardère, lui, a vendu ses actions quasiment au même moment que Noël Forgeard. Ça représentait là non pas un petit pourcentage mais 7,5% du capital de EADS, et il s'en est tiré avec 890 millions de plus-value. C'est pas 8 millions, c'est 890 millions. C'est 100 fois plus. Et sur ce 100 fois plus, on n'a rien dit. Alors, pourquoi les politiques n'ont rien dit? Sans doute parce que déjà du côté gauche, parce que Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn qui ont publié une tribune dans Le Monde où le nom d'Arnaud Lagardère ni celui de Jean-Louis Lagardère ne sont prononcés, parce que leur sort était lié. En un sens, c'est eux qui avaient choisi de confier Aérospatiale au groupe Lagardère. Et deuxième point, Arnaud Lagardère vient dire qu'il considère Nicolas Sarkozy comme un ami ou comme un frère.
Ils ont dîné ensemble au Phuket. Si
en plus, j'ignore. Moi, j'ignore un peu toute la vie parisienne, vous savez, comme...
Mais bien sûr, on est un provincial.
Voilà, on est près de Méholt, on est plus près de Méholt que du Phuket. Méholt, où il y a un site Airbus. Et donc...
François Ruffin, c'est la France profonde, ici, voilà. Le monde diplomatique. Oui, c'est quelqu'un qui se lève tôt.
Donc voilà, donc là, il y a eu un oubli... Nicolas Sarkozy a juste parlé d'un problème d'actionnariat. On n'en saura pas plus, quoi. Et évidemment, il ne faut pas compter sur les médias aux mains du groupe
Capital,
du groupe Lagardère, en l'occurrence Europe 1, une partie du Monde, et puis également Paris Match et ainsi de suite, pour venir soulever ce problème. Jean-Marie Colombani a fait des tartines.
Vous croyez que c'est une influence, qu'il y a un rapport entre les deux?
Je n'oserais pas l'imaginer.
En tout cas, quand Arnaud Lagardère dit qu'il préfère passer pour incompétent à être jugé malhonnête, s'il a gagné 800 millions d'euros dans cette affaire, il n'a pas été tellement incompétent.
Le gouvernement est avec nous, les pauvres taisez-vous. Le gouvernement est avec nous, les pauvres taisez-vous. Pas d'impôts pour les riches, pas d'impôts pour les riches. CAC 40, ouais.
Charter pour Caracas, pour toute l'équipe du monde diplomatique. Maurice Lemoine, non?
C'est parti. Oui, je sais pourquoi vous me posez la question. C'est parce que le gouvernement du Venezuela vient de se retirer du Fonds monétaire international. Bon, ça m'amène à lancer une formule qui, j'en suis sûr, va faire un tabac. Une autre gauche est possible. Parce qu'en fait, d'ailleurs, Hugo Chavez n'est pas le seul, puisque l'Équateur également, il y a une quinzaine de jours, le président Rafael Correa a déclaré persona non grata, le représentant de la Banque mondiale en Équateur. Et en gros, le discours de ces deux gouvernements, c'est « il n'y a pas de fatalité ». C'est un mot qui vous rappelle quelque chose, mais là-bas, c'est plutôt à gauche qu'on tient ce discours. Alors, on n'a pas malheureusement le temps de faire un développement sur la dette, hein, la dette de l'Amérique latine, mais on le fera le mois prochain, l'année dernière, mai, je prends rendez-vous, puisque nous aurons dans le numéro de juin, quand vos lecteurs auront lu le numéro de mai, un article sur Amérique latine, Banque mondiale et Fonds monétaire international. Cela étant, juste pour la compréhension et peut-être même l'anecdote, c'est vrai que le Fonds monétaire international a une histoire au Venezuela, et y compris qu'il a peut-être été en partie responsable de l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez. Hein, c'est vous dire le paradoxe. Rappelez-vous qu'en 1989, le Venezuela a connu une crise majeure. Pendant les années 70, pendant le premier choc pétrolier, le pays s'est considérablement... Enfin, le pays a reçu beaucoup d'argent, un équivalent de 16 plans Marshall, du fait de l'élévation des prix du pétrole, et puis il s'est beaucoup endetté à cette époque-là. Est arrivée la fin du pic pétrolier, et d'un seul coup, ce pays qui s'était beaucoup endetté s'est retrouvé dans l'impossibilité de payer. Et à ce moment-là, le Fonds monétaire international est intervenu au Venezuela et a conseillé au président Carlos Andrés Pérez de procéder à un ajustement structurel. Ce que le président Carlos Andrés Pérez a fait, c'est-à-dire que du jour au lendemain, en février 89, il a coupé les subventions aux produits de première nécessité, il a fait doubler les prix des transports publics dans un pays où 70% de la population était en dessous du seuil de pauvreté, et la population a explosé. Cette population a explosé, cette population s'est révoltée, cette population est descendue dans la rue, sans leader, sans drapeau, sans idéologie. C'était une colère populaire qui a été réprimée d'une manière féroce, puisque en environ 10 jours, il y a eu de l'ordre de 3000 morts à Caracas. C'était le 27 février 89. C'est passé relativement inaperçu, mais ça n'est pas passé inaperçu d'un certain nombre de militaires qu'on pourrait appeler progressistes, parmi lesquels Hugo Chavez, qui ont décidé qu'il fallait en terminer avec cette démocratie injuste et corrompue. Ce qui fait que lorsqu'on parle de l'ancien colonel putschiste Hugo Chavez, il faut connaître l'histoire et savoir d'où vient cette tentative de coup d'État du 4 février 1992. Et puis en ce qui concerne l'Équateur, le président Rafael Correa, vous vous souvenez que sous l'impulsion des politiques néolibérales, il y a eu aussi une révolte populaire, y compris une révolte des classes moyennes, qui a chassé le président Gutiérrez, est arrivé, a pris sa succession le vice-président, c'est un grand classique en ce moment en Amérique latine, Carlos Mesa, qui a nommé comme ministre de l'économie un certain Rafael Correa, un jeune économiste lié un peu à la théologie de la libération. Et ce Rafael Correa a dit, effectivement, il faut infléchir les politiques, et il a demandé un prêt de 100 millions de dollars à la Banque mondiale, mais en même temps, il avait annoncé que les fonds d'un fonds pétrolier seraient redistribués en direction des programmes sociaux. Moyennant quoi, la Banque mondiale a refusé le prêt de 100 millions, et d'une certaine manière, l'expulsion de la Banque mondiale il y a une quinzaine de jours d'Équateur, c'est la réponse, j'allais dire, du berger à la bergère, c'est-à-dire que maintenant, je suis président de la République, Rafael Correa, élu par la population équatorienne. Il vient d'obtenir 80% d'appui lors d'un vote pour enclencher une assemblée constituante. Et de même que Chavez au Venezuela, ils ont décidé que les politiques économiques doivent être revues, et avec un grand projet de Chavez qu'il faut regarder avec attention, qui est la création d'une banque du Sud dans laquelle les pays du Sud pourraient enfin prendre leur destin économique entre leurs mains. Au-delà de ces affaires positives en Amérique latine, on a dans le diplôme de ce mois-ci deux pages sur la Colombie, et je crois qu'il faut réellement s'intéresser à la Colombie. Ce qui s'y passe d'abord est grave en matière de droits humains, de droits de l'homme, et puis surtout est en train d'y émerger un scandale qu'on appelle le scandale de la parapolitique, dans lequel sont maintenant mis au grand jour les liens qu'on connaissait depuis longtemps, mais maintenant ça devient officiel puisque la justice colombienne s'en mêle, entre les pouvoirs locaux, les pouvoirs régionaux, et y compris le président Álvaro Uribe, avec les paramilitaires, dont je rappelle qu'ils sont responsables de 75% des crimes et des violations des droits humains en Colombie.
Continue avec le diplôme du mois de mai du monde diplomatique, avec un dossier très très riche et très passionnant, Dominique Vidal, sur la discrimination positive. En anglais, c'est affirmative action.
Voilà.
Mais... Et vous prenez plusieurs exemples où cette discrimination positive est mise en œuvre aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Inde et en France.
Alors, je vais pas essayer de faire le résumé de ce dossier, parce que c'est 4 pages avec des articles très pointus sur l'expérience de l'Inde, l'expérience de l'Afrique du Sud, l'expérience des États-Unis, et puis ce qu'on peut en tirer pour la réflexion sur les débats français. Parce qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que cette expression en discrimination positive est très en vogue depuis quelques années. mais que personne n'est capable de la définir. Et que la seule définition que les gens en donnent, c'est une vague référence aux expériences étrangères, mais sans en connaître la nature. En fait, le dossier montre, et je crois qu'il faut le lire pour s'y intéresser dans le détail, que ces expériences étrangères sont à la fois très positives du point de vue d'un certain nombre de victoires qu'elles ont pu marquer sur les inégalités, mais en même temps limitées, contradictoires, voire dans certains cas qu'elles ont des effets pervers, inverses. Or, avec tout ça, on a une espèce de débat bizarre en France, relancé d'ailleurs par le nouveau président de la République, à l'époque où il ne pensait pas qu'il fallait carchériser les racailles, mais il essayait de séduire les jeunes des banlieues, et notamment les jeunes issus de l'immigration maghrébine ou africaine. Et donc, il avait mis en avant cette question de la discrimination positive. Il faut d'abord dire, je crois, que la démarche est tout à fait louable en soi. Elle vise à essayer de surmonter un des grands problèmes de la société française, des sociétés européennes, c'est-à-dire les discriminations, discriminations à la fois sociales, mais aussi doublées, dans certains cas, de discriminations d'origine. Tout le problème est de savoir comment on s'y prend. Et c'est là le vrai débat, pas le faux débat, le vrai. Dans ce qu'il propose, il y a au fond l'idée d'une promotion, d'une petite minorité de jeunes méritants. Le mot méritant, là aussi, c'est un mot comme assistana, nouveau, qui est apparu avec beaucoup de force. Un vieux mot, mais qui est revenu dans le vocabulaire politique. Au fond, c'est l'aide donnée à quelques jeunes beurs aux dents longues, pour dire les choses simplement. D'ailleurs, c'est ces jeunes beurs qu'on a vus, il n'y en avait pas beaucoup d'autres, pas la Concorde, sur scène.
Il y en avait un,
qui chantait. Même après la Marseillaise, il reprenait le micro pour chanter. Et enfin, il n'y a pas que lui. Le projet est évidemment plus large. Il s'agit de créer une petite minorité blanchie. Il ne faut pas parler de la repentance. Hein, donc, je ne dis pas pourquoi. C'est fini, la repentance. Donc, blanchie et qui permette de maintenir l'ordre dans les quartiers, dans ces communautés. Parce que du côté du nouveau président, on croit beaucoup, visiblement, aux communautés.
Il y a une formule que j'avais lue et que j'aime beaucoup. C'est « Ils veulent du pain, les meilleurs auront de la brioche ».
C'est une excellente formule qui renvoie d'ailleurs à une histoire républicaine, celle-là, et anti-monarchique française. Donc ça, c'est la conception de Nicolas Sarkozy et de ceux qui ont brandi ou utilisé cette idée de discrimination positive. Nous savons très bien que la promotion, en tout cas c'est notre opinion, de quelques-uns, ne peut pas se substituer à la promotion de tous. C'est-à-dire à la lutte contre les discriminations qui frappent la grande masse des jeunes, des quartiers, en particulier des jeunes immigrés. Et donc, je crois que c'est important dans ce débat de faire entendre une voix qui en est absente, qui est une idée simple, c'est que pour faire reculer les inégalités, il faut des réformes radicales, coûteuses, qui permettent d'assurer l'accès égal, non pas de quelques-uns, mais de tous, à une véritable école qui forme et qui forme aussi à un métier, à un logement qui ne soit pas ghettoisé, à un emploi qui soit réellement disponible, à la santé, à la culture, etc. Donc c'est une voie qui a l'air comme ça de venir de loin, mais elle est toujours valable, me semble-t-il. En même temps, disant cela, on ne peut pas, je pense, mépriser les petites avancées, les pas qui peuvent être faits, ce serait immoral de le faire. Et c'est là qu'il y a débat. Et celui-là est un vrai débat. L'article 1 de la Constitution, en France, dit que la République assure, je cite, « l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race et de religion ». C'est-à-dire que toute discrimination positive, fondée sur des critères ethnico-religieux, est illégale, est anticonstitutionnelle. C'est une première dimension importante du débat sur ce thème. Est-ce que pour autant, on ne peut pas imaginer une discrimination positive sur d'autres critères, par exemple sur des critères sociaux ou territoriaux. Et c'est là qu'existe, y compris du point de vue constitutionnel, une véritable possibilité, puisque le Conseil d'État, en 1996, après une très longue jurisprudence, très contradictoire souvent, a affirmé qu'il prenait acte, je cite, de certaines discriminations positives à la française, c'est lui qui parle, le Conseil d'État, dont l'objet est de réduire les inégalités. Donc on a là, contrairement à ce que disent de l'autre côté un certain nombre de d'extrémistes républicains, une véritable possibilité de mise en œuvre de mesures. Mais évidemment, on n'échappe pas, une fois qu'on a dit ça, à la question de l'efficacité des efforts qui sont mis en œuvre. Je prends un exemple. Quel est l'exemple typique de discrimination positive en France qui existe maintenant depuis plus de 25 ans? Ce sont les EP, les écoles, les lycées, les collèges, dans les zones d'éducation prioritaire. Eh bien, quand on va voir, comme je l'ai fait pour cet article, des responsables syndicaux, mais aussi des enseignants de ZEP, ils disent les ZEP, c'est quelque chose de formidable, il faut à tout prix le garder, mais les ZEP ont été liquidés. Et liquidés pas d'aujourd'hui, depuis longtemps. Je veux dire, par là, ça inclut aussi bien la gauche que la droite dans la gestion des ZEP, parce que l'insuffisance des moyens, qui est une question quantitative, si on veut, a débouché sur des dérives qualitatives. Comme il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas assez d'équipement, et surtout, il n'y avait pas assez d'enseignants. Et donc, on a abouti à une situation où il y a à peine moins d'élèves dans les classes ZEP qu'il n'y en a dans les autres classes en France. Or, c'est ça qui était l'idée centrale d'Alain Savary, quand il avait inventé l'idée des ZEP, c'était de permettre qu'il y ait beaucoup moins d'élèves par classe, de telle manière à ce que les enseignants puissent s'occuper de plus près, de manière individuelle, de chaque élève, pour aider à surmonter les difficultés qu'ont des élèves dans ces quartiers, qui sont des difficultés aussi de vie quotidienne, de leur famille, des conditions dans lesquelles ils étudient, des problèmes de vie qui sont ceux de ces quartiers. Et donc on voit bien que même une fois écarté l'idée de discrimination positive sur des critères ethnico-religieux, qui serait évidemment complètement absurde et qui ne correspondrait pas à la réalité française, même sur la base de critères sociaux et territoriaux, il faut avoir une démarche, il faut avoir une démarche qui soit une démarche radicale et qui permette de mettre en œuvre réellement des mesures qui changent la situation. C'est au fond autour de tout ça que tourne le dossier, avec des exemples de l'étranger qui montrent que même là-bas, les contradictions de ces politiques méritent de nous faire réfléchir, nous, ici. On ne peut pas décalquer des politiques qui ont pour but de faire face à l'héritage de l'esclavage, par exemple, ou à l'héritage et l'actualité du système des castes, ou bien à l'héritage de l'apartheid, et dire, ben voilà, c'est ce qu'on va faire en France. En France, on n'a pas eu dans les mêmes conditions l'esclavage, les castes ou l'apartheid. Il faut inventer, effectivement, des mesures adaptées à la société française, mais qui ne peuvent être que des mesures radicales et coûteuses, si on veut vaincre, ou en tout cas faire reculer les inégalités.
Serge Alimi.
Je voudrais juste faire une remarque qui renvoie au cas américain pour évoquer l'autre discrimination positive. La discrimination positive qu'on connaît beaucoup dans le cas américain, c'est la possibilité pour des enfants de noirs ou d'hispaniques d'être reçus, par exemple, à Harvard avec des notes qui sont inférieures à celles qu'on exige des enfants de blancs. Ça, c'est ce qu'on connaît, et puis ça a suscité une mobilisation de la droite américaine, naturellement, mais aussi de bien d'autres, en disant « c'est pas égalitaire, c'est pas juste, ça n'est pas normal ». Mais il y a une autre discrimination positive qui est celle qu'on n'évoque jamais, qui est la discrimination positive qui joue au profit des fils de bonne famille. Parce que à Harvard, par exemple, vous avez 11% des candidats dont les parents n'ont pas fait Harvard qui sont reçus, mais vous avez 40% des candidats dont les enfants ont fait Harvard qui sont reçus. Pourquoi ? Parce que très souvent, lorsque vous avez fait Harvard, après vous versez de l'argent à l'université. Vous soutenez financièrement l'université. Et l'université, pour alimenter en permanence cette pompe à fond, privilégie de manière ouverte les enfants de diplômés de Harvard. Alors on peut dire, mais les enfants de diplômés de Harvard sont par définition plus intelligents que les autres. Eh bien, grosse surprise, non, pas du tout. Il y a eu une étude du ministère, il y a eu une étude, parce que ces choses-là sont étudiées aux États-Unis. Donc il y a eu une étude du ministère de l'Éducation américain qui a conclu, je cite, « Le fils ou la fille d'un diplômé d'Harvard admis à étudier dans la même université est sensiblement moins qualifié que la moyenne des autres étudiants de Harvard dans toutes les disciplines, à l'exception du sport. » Donc, vous voyez, il y a cette autre discrimination positive qui favorise des groupes sociaux ultra privilégiés, qui en général est constamment occultée, alors qu'elle concerne sans doute un nombre au moins aussi important et sans doute même beaucoup plus important de personnes.
Merci à tous, merci à Serge Halimi, François Ruffin, Maurice Lemoine, Dominique Dalle, autour de ce numéro du Monde diplomatique de mai. Et je vous signale qu'à partir de lundi, une série exceptionnelle avec Chomsky, Noam Chomsky et compagnie d'autres intellectuels sera toute une série d'émissions la semaine prochaine autour de la publication dans les cahiers de Lerne d'un hommage à Chomsky. La technique aujourd'hui, Benoît Massir, Elisabeth Collet, c'est Koye Nguyen et Yann Chouquet qui auraient réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert, vous écoute et vous attend auprès du répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37.